plus on s'enfonce dans l'histoire des juges et plus la situation se dégrade. Le récit intéressant du chef Gédéon se termine de manière tragique. Bien qu'il soit cité dans le Nouveau Testament parmi les héros de la foi, il profita de sa victoire sur les ennemis d'Israël pour semer les germes corrompus et empoisonnés de l'idolâtrie, de la volupté et de la richesse. C'est ainsi qu'est né Abimélec, l'un de ses 70 fils issus d'une de ses nombreuses femmes. Cet homme devint un tyran de la pire espèce, comme le monde en a connu beaucoup. Le chapitre suivant de ce livre décrit les 7e et 8e chefs juges dont les histoires sont des plus courtes, ce qui en dit long sur le peu d'influence positive qu'ils eurent sur la nation d'Israël. Comme je l'ai dit, au fur et à mesure qu'on avance dans le texte, l'état général d'Israël empire à tous les niveaux, moral, politique et spirituel. Parce que la nation, qui n'en est plus vraiment une, est dans une spirale infernale descendante. La pratique du mal est toujours dynamique. Elle augmente avec le temps. Je commence à lire le chapitre suivant. Après la mort d'Abimélec, ce fut Tola, fils de Poua et petit-fils de Dodo de la tribu d'Issacar, qui entreprit de délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il fut chef en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. Verset 1 et 2. Aucune invasion extérieure n'est mentionnée, ce qui indique que l'investiture de ce Tola fut une période intérimaire. Il a rétabli l'ordre et la paix intérieure dans les tribus d'Éphraïm et de Manassé suite à la guerre civile qu'avait provoqué la venue au pouvoir du despote Abimélec. Je continue avec le prochain chef juge. Son successeur fut Yaïr de Galaad, qui fut chef en Israël pendant 22 ans. Ses 30 fils montaient 30 anons et possédaient dans le pays de Galaad 30 villages que l'on appelle encore aujourd'hui les bourgs de Yaïr. Yaïr mourut et fut enterré à Camon. Verset 3-5. Le narrateur ne fait état d'aucune action remarquable de la part de ce Yaïr. Il était cependant un homme riche et important pour pouvoir entretenir toutes les femmes qui lui ont donné 30 fils, possédant chacun en propre tout un village. L'âne avait à cette époque le même statut social qu'une grosse voiture chez nous. Au lieu d'un garage pour 30 bagnoles, Yaïr disposait d'une écurie pour 30 ânons. Je continue le texte avec un autre cycle déprimant. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Ils rendirent un culte aux Baal et aux Astartés, aux dieux de la Syrie, de Sidon, de Moab, et à ceux des Ammonites et des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne lui rendirent plus de culte. Verset 6. Les Israélites additionnaient les idoles comme s'ils faisaient une collection de timbres. Ils se mettent à plat ventre devant 7 catégories différentes de faux dieux païens. On aurait pourtant été en droit de penser qu'à la suite de tous les jugements qu'ils avaient subis à cause de leur dévotion aux idoles, ils auraient compris que le jeu n'en valait pas la chandelle. Eh bien, pas du tout. Ils sont butés comme un âne rouge. Non seulement ils adoptent comme Dieu tout ce qui leur tombe dans les mains, mais ils abandonnent l'Éternel qui les a délivrés maintes et maintes fois. C'est une attitude totalement irrationnelle. Cela me fait penser à une parole du prophète Jérémie que je cite. « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose, et il est incurable. Qui pourrait le connaître ?» Fin de citation. Je continue le texte. « Alors l'Éternel se mit en colère contre les Israélites, et il les livra au pouvoir des Philistins et des Ammonites. » À partir de cette année-là, ceux-ci opprimèrent et maltraitèrent les Israélites. Pour les Israélites qui habitaient à l'est du Jourdain, l'oppression dura 18 ans. Les Ammonites traversèrent même le Jourdain pour attaquer les tribus de Juda, de Benjamin et d'Éphraïm. Israël fut dans une extrême détresse. Verset 7 à 9. L'auteur va d'abord traiter de l'oppression ammonite à l'est du Jourdain. Ensuite, il passera à celle des Philistins au sud du pays. Je continue. Alors, les Israélites implorèrent l'Éternel de les aider en confessant. « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons rendu un culte au Baal. » L'Éternel leur répondit, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites et des Philistins ? Et lorsque les Sidoniens, les Amalécites et les Maonites vous ont opprimés, et que vous avez imploré mon aide, ne vous ai-je pas délivré d'eux ? Mais vous, vous m'avez abandonné et vous avez adoré d'autres dieux. C'est pourquoi je ne viendrai plus à votre secours. Allez implorer les dieux que vous vous êtes choisis. Qu'ils vous délivrent maintenant que vous êtes en détresse. » Mais les Israélites plaidèrent avec l'Éternel. « Nous avons péché. Traite-nous comme tu le trouveras bon, mais de grâce, délivre-nous encore cette fois. » Ils firent disparaître du milieu d'eux les dieux étrangers et rendirent de nouveau un culte à l'Éternel. Alors, l'Éternel ne put pas supporter plus longtemps les souffrances d'Israël. Versets 10 à 16. Les Israélites entonnent le même refrain que précédemment et cela devient particulièrement lassant. Cependant, leur repentance semble sincère. Ils confessent leurs péchés et mettent leur statuette idolâtre au placard. Dans sa remontrance à Israël, l'Éternel mentionne 7 peuples oppresseurs. Ce chiffre symbolise la perfection dans le sens que Dieu a déjà tout fait en faveur de son peuple ingrat qui maintenant adore 7 catégories d'idoles païennes. Cependant, encore une fois, Dieu, dans sa bonté, se laisse fléchir. Je continue jusqu'à la fin du chapitre. Les Ammonites mobilisèrent leurs troupes et prirent position dans la région de Galaad. De leur côté, les Israélites rassemblèrent leurs forces et dressèrent leur camp à Mitzpa. Alors les hommes et les chefs installés en Galaad se demandèrent les uns aux autres. Qui va lancer l'attaque contre les Ammonites? Celui qui le fera deviendra le chef de tous les habitants de Galaad. Versets 17 à 18. Les troupes israélites sont rassemblées au nord de l'actuelle Amman, la capitale de la Jordanie. Il leur faut maintenant trouver un chef militaire, car cette fois-ci, l'Éternel n'a désigné personne en particulier. Or, les chefs ne semblent pas courir les rues. La suite de cette confrontation est racontée dans le chapitre suivant que je commence à lire. Jephté, originaire de Galaad, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galaad. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut aussi donné des fils et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephté du foyer en lui disant « Tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Et Jephté s'enfuit loin de ses frères. Il se fixa dans la région de Tob. Bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. Versets 1 à 3. Un vaillant guerrier désigne un soldat bien entraîné et disposant des moyens nécessaires pour fournir son équipement militaire et employer un porteur d'armes. Jephté était un paria marqué au fer rouge. À cause de la tache de sa naissance, il n'avait droit à aucun patrimoine en Israël et était exclu des cultes rendus à l'Éternel. Banni dans ce qui est le nord-est de la Jordanie, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de vivre de rapine avec sa troupe de vauriens. Bref, il n'était pas le genre de personne que vous aimeriez inviter à dîner chez vous le dimanche parce qu'après le repas, il emmènerait toute votre argenterie et les meubles avec lui en souvenir. Je continue. C'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. quand ils attaquèrent les Israélites, les responsables de Galaad allèrent chercher Jephté dans la région de Tob. Ils lui dirent « Viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattions les Ammonites. » Jephté leur répondit « Vous m'avez haï et vous m'avez chassé de chez mon père. Comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les responsables reprirent « C'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant. Si tu viens avec nous et si tu combats les Ammonites, tu deviendras notre chef à tous et tu seras à la tête de toute la population de Galaad. » Versets 4 à 8. Les responsables des tribus de l'est du Jourdain sont en difficulté et ne manquent pas d'air. Ils ont le culot de demander de l'aide à quelqu'un qu'ils ont traité comme un chien dans un jeu de quilles. Mais, aux grands mots, les grands remèdes. Les notables sont acculés à des solutions désespérées. Ils ravalent leur orgueil et font une offre alléchante à Jephté. Non seulement il commandera les armées, mais ils ajoutent la promesse d'un poste qui commandera la respectabilité en cas de victoire. Il assumera la fonction d'une autorité civile. Je continue le texte. « Soit, répliqua Jephté, mais si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me donne la victoire sur eux, je resterai votre chef. » Alors les responsables de Galaad lui déclarèrent « L'Éternel en est témoin. Qu'il nous punisse si nous ne faisons pas ce que tu as dit. » Alors Jephté partit avec les responsables de Galaad. Le peuple le nomma chef et le mit à la tête des troupes. Jephté répéta les termes de l'accord conclu avec les responsables devant l'Éternel à Mitzpah. Versets 9 à 11. Jephté, fils méprisé d'une prostituée et paria chef de bande, voilà une occasion en or de se réhabiliter. Bien que voyou, il avait une certaine foi en l'Éternel. Il accepte donc leur proposition à condition qu'elle soit officielle. C'est alors qu'a lieu une cérémonie solennelle pendant laquelle les responsables du peuple jurent au nom de l'Éternel qu'ils tiendront leurs promesses. Ensuite, Jephté prend les choses en main. Suit alors un échange de messages entre lui et le roi des Ammonites concernant le territoire que ces derniers revendiquaient. Jephté retrace alors l'histoire d'Israël depuis qu'ils sont arrivés aux portes du pays promis. Il rappelle comment tous les peuples leur refusaient le droit de passage et qu'ils furent même attaqués par les Amoréens, qu'ils vainquirent. Il conclut en disant « De quel droit les Ammonites revendiquent-ils un territoire que l'Éternel a donné à Israël et qu'ils occupent depuis des siècles ?» Je continue le texte plus loin. « Moi, je n'ai commis aucune faute contre toi. C'est toi qui agis mal en venant me faire la guerre. Que l'Éternel, le juge, rende aujourd'hui son jugement entre les descendants d'Israël et ceux d'Ammon. » Mais le roi des Ammonites ne tint aucun compte du message que Jephté lui avait fait transmettre. Versets 27 à 28. La tentative de Jephté de résoudre cette confrontation par la diplomatie a échoué. Maintenant, ce sont les armes qui vont parler. En tant que juge de la terre entière, l'Éternel est le recours ultime et prononcera son verdict sans appel par l'issue de l'affrontement militaire que les Ammonites ont choisi. Je continue. Alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephté. Celui-ci traversa les territoires de Galaad et de Manassé, puis il passa à Mitzpah en Galaad et de là, il s'avança pour attaquer les Ammonites. Verset 29. L'objectif de l'Esprit de l'Éternel qui descendit sur Jephté était de lui donner des capacités surnaturelles dans sa charge de général d'armée. Cette mention montre bien que c'est Dieu qui donne la victoire à son peuple. Jephté est d'abord parti recruter des hommes de guerre dans les tribus de l'est du Jourdain avant de passer à l'attaque. Je continue. Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit « Si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre. » quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Versets 30 à 31. À la veille du combat, Jephté prend peur et fait un vœu qui n'était pas nécessaire. Cela était bien sûr permis par la loi de Moïse, mais dans cette situation, il semble attribuer quelques pouvoirs magiques à ce vœu. Il essaye de forcer la main de Dieu en quelque sorte parce qu'il manque de foi, malgré le fait que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Je continue. Jephté se lança à l'attaque des Ammonites et l'Éternel lui donna la victoire sur eux. Il leur infligea de lourdes pertes dans 20 bourgs situés entre Aroer et Minit et jusqu'à la région d'Abel-Kéramim. Ce fut une très grande défaite pour les Ammonites qui furent ainsi affaiblis par les Israélites. Après la bataille, Jephté retourna chez lui à Mitzpah et voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Versets 32 à 33. Toute la région au sud de l'actuelle capitale jordanienne, Amman, fut ainsi conquise par les Israélites. Mais ensuite, les choses se gâtent pour Jephté. En rentrant chez lui, il aperçoit sa fille qui dansait. La coutume voulait que les femmes accueillent en musique le retour des vainqueurs. Je continue. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria « Ah, ma fille, tu m'accables de chagrin. Faut-il que ce soit toi qui cause mon désespoir? J'ai donné ma parole à l'Éternel et je ne puis revenir sur ma promesse. » Versets 34 à 35. En réalité, la loi de Moïse donnait l'option aux personnes consacrées par un vœu d'être rachetées avec de l'argent qui était donné au sanctuaire, c'est-à-dire aux prêtres en exercice. Je lis le passage. « L'Éternel s'adressa à Moïse en disant, « Parle aux Israélites et dis-leur, si quelqu'un dédie une personne à l'Éternel par un vœu, il s'en acquittera d'après l'estimation suivante. Si c'est une femme, sa valeur sera de 30 pièces. Un garçon entre 5 et 20 ans s'estime à 20 pièces et une fille à 10 pièces d'argent. » Fin de citation. Cependant, ce brave Jephté, comme semble-t-il tout le monde à cette époque, était ignorant de la loi. Et pourtant, comme Gédéon que j'ai déjà mentionné, il fait partie des héros de la foi dont la liste nous est dressée dans le Nouveau Testament. Quoi qu'il en soit, Jephté se sent obligé d'accomplir le vœu qu'il a fait. Je continue le texte. Elle lui dit, « Mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis, puisque l'Éternel a réglé leur compte aux Ammonites, tes ennemis. » Puis elle ajouta, « Je ne demande qu'une chose. Accorde-moi un délai de 2 mois. J'irai avec mes amis dans les montagnes pour y pleurer ma virginité avec mes amis. » Il répondit, « Va. » Et il la congédia pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses amis et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Versets 36 à 38. Cette jeune fille se montre particulièrement obéissante. Le drame dans cette histoire est qu'elle était fille unique et que sa consécration à l'Éternel consistait à ne pas se marier et à servir les Lévites qui avaient la charge du sanctuaire. Bien que tout Israël trempait dans des coutumes païennes, il n'est pas concevable que Jephté ait tranché la gorge à sa fille avant de la brûler en l'honneur de l'Éternel pour l'accomplissement de son vœu. En effet, c'était justement cette pratique des sacrifices humains qui constituait l'abomination première qui fit que les Cananéens furent condamnés à l'extermination. Je cite 2 passages de la loi de Moïse. « Non, vous n'agirez pas ainsi envers l'Éternel votre Dieu, car ces nations faisaient pour leur Dieu toutes sortes de choses que l'Éternel a en abomination et qu'il déteste. Elles allaient même jusqu'à brûler leurs fils et leurs filles en sacrifice à leur Dieu. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. » Fin de citation. En conclusion, Jephté a tout faux. Il a fait un vœu regrettable, ayant parlé trop vite, et de plus, il ignorait que, selon la loi, il aurait pu racheter la légèreté de ses lèvres avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Néanmoins, et à son honneur, il faut dire qu'il était un homme de parole. En cela, il vénérait l'Éternel, ce qui, à ses yeux, est la plus grande qualité que je puisse posséder. En effet, je suis avant tout sur terre pour que, par ma vie ici-bas, je rende gloire à son nom.